A dream is just a dream. A dream is just a dream without you. A dream is nothing more. A dream is nothing less without you. A song is not a song. A song is not a song without words. There's no right or wrong. There's no right or wrong without intelligence. The man next door is your brother. Just like that person in the mirror. You and I reflect one another. How long shall we run from the truth? Yes, we can run.
Bonjour à tous et à toutes, auditeurs et auditrices fidèles à notre émission mensuelle, Les On Dit Vivre Ensemble. Une émission animée par Will et moi, Siaka. Bonjour Will, quelle date sommes-nous?
Bonjour Siaka. Alors nous sommes le 31.
Ah bon, d'accord. Et que signifie ce mois, Will?
Le 31 mai, alors c'est le mois d'Europe. Et c'est aussi un mois qui se déroule plusieurs événements importants.
C'est le mois de l'Europe et c'est aussi le mois de plus qui se déroule plusieurs événements importants, comme le mariage pour tous.
Exact, oui. Et on avait de la chance d'avoir des intervenants du milieu professionnel qui sont venus nous livrer de nombreuses informations. Alors je peux citer Madame Ro Florence du Conseil Régional Aquitaine, Mademoiselle Rochu Estelle de la Maison de l'Europe de Bordeaux, et puis Mademoiselle Déborah Famvanseur qui effectue un service civique à O2 Radio.
Et cela nous permet d'aborder plus de nombreux sujets autour de l'Europe. Et j'espère qu'on puisse apporter à nos éditeurs de nombreuses informations utiles.
Oh, j'espère bien aussi. Alors, dans ce cas, je me permets de laisser la parole à Ramon, qui va nous éclairer sur ce que c'est le modèle de l'Union européenne, et plus précisément sur la situation délicate de la Turquie au sein de l'Union européenne. Salut Ramon.
Bonjour.
À toi.
Tout à fait. Aujourd'hui, l'Union européenne est formée par 27 pays membres. Et bientôt, le 1er juillet, il donnera la bienvenue à la Croatie. Au départ, l'Union européenne représentait essentiellement une union douanière. Mais cela a évolué, car les nouveaux États membres intègrent également un marché unique, ainsi qu'une union monétaire.
Oui, Ramon, mais quels sont les critères pour intégrer l'Union européenne?
Selon l'article 49 du traité sur l'Union européenne, tout État européen peut demander à devenir membre de l'Union, à condition de respecter ses valeurs, liberté, démocratie, respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des droits et l'état des droits. En 1993, le Conseil européen de Copenhague a défini trois critères, politiques, économiques et de soumission aux obligations, conformés par les traités de Lisbonne que les pays candidats doivent satisfaire. Le premier est que le pays demandeur doit être un état de droit, un système démocratique stable et une protection des minorités. Puis, il doit avoir une économie de marché viable et une capacité de faire face à la concurrence à l'intérieur de l'Union. Et enfin, il doit souscrire aux objectifs de l'Union politique, économique et monétaire, c'est-à-dire accepter et transposer dans la législation nationale, l'ensemble du droit européen en vigueur. Mais l'ensemble des procédures qui doit suivre chaque pays avant d'intégrer l'Union européenne sont très bureaucratiques et normalement s'étalent sur plusieurs années. Ainsi, l'élargissement de l'Union européenne a permis aux gens de pouvoir étudier dans tous les pays de l'Union européenne et de travailler et de valider leurs qualifications universitaires ou professionnelles. Ce qui permet à l'Europe de former un bloc de plus en plus important, capable de concurrencer les grandes puissances internationales. Mais les nombreux élargissements de l'Union européenne sont parfois difficiles. Les conditions d'accès à respecter pour pouvoir y entrer ne sont pas pour autant faciles à remplir. Un exemple qui peut éclairer cela, c'est la Turquie, qui lutte depuis des années pour adhérer à l'Union européenne. La question de son adhésion a été longtemps repoussée, jusqu'en 2005, lors de débats de négociations, ce qui a fait que depuis le 14 avril 1987 jusqu'à présent, la Turquie continue les négociations, ce qui a provoqué un mécontentement généralisé dans la population turque.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les freins à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ?
Bien sûr. Voyons ce que c'est la Turquie. Elle a actuellement une économie florissante, une démocratie, on pourrait dire exemplaire, vis-à-vis à ses voisins. Elle est une république parlementaire. Également, 3% de son territoire se situe en Europe et elle compte plus de 75 millions d'habitants. Alors, quelles sont les raisons de refus? Est-ce son économie dynamique? Est-ce une dévaluation de l'euro avec la crise actuelle? Est-ce la peur d'un possible conflit avec les pays voisins en guerre? Voyons cela ensemble avec une interview réalisée par Chan.
Bonjour Monsieur Monceau.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Porto 4. Et je vous téléphone aujourd'hui, c'est pour vous poser quelques questions à propos de la Turquie.
Oui.
Et la Turquie ne fait pas partie du continent européen. Et si la Turquie intégrait l'Union européenne, est-ce que cela changera la nature du projet européen?
C'est tout l'enjeu du débat qui a été soulevé ces dernières années autour de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, en raison des caractéristiques de ce pays. Vous avez mentionné à l'instant la géographie de la Turquie, dont une grande partie du territoire donc se situe en dehors du continent européen sur le plan géographique, mais il y a d'autres critères également qui ont été soulevé à l'occasion de la candidature de ce pays. Donc tout un débat depuis que la Turquie est officiellement candidate à l'adhésion a été soulevé sur l'influence qu'aurait l'intégration de la Turquie sur l'Union européenne et sur l'évolution et l'avenir de l'Union européenne.
Et on sait que la Turquie a des frontières communes avec des pays conflictuels, Irak, Iran, Syrie, etc., le risque d'entraîner l'Union européenne dans le terrorisme. Est-il une raison de refuser l'entrée?
C'est un des arguments qui est avancé, en effet, par ceux en Europe, et notamment en France, qui sont opposés à l'adhésion de la Turquie. Je me souviens qu'un homme politique français, Philippe de Villiers, avançait souvent cet argument selon lequel les problèmes du Moyen-Orient et notamment les conflits dans cette région seraient importés en Europe si la Turquie devenait membre de l'Union européenne. Mais il y a d'autres positions qui, elles, s'opposent à cette vision. Qui sont notamment qu'on retrouve chez ceux qui sont partisans de l'adhésion, selon laquelle, au contraire, la Turquie, si elle adhérait à l'Union européenne, pourrait contribuer notamment à ce que l'Union européenne joue un rôle plus actif, plus important dans la région, du Moyen-Orient, et dans la résolution des conflits dans cette région. Cela permettrait notamment à la politique européenne de sécurité et de défense d'avoir un rôle plus important avec une Turquie membre de l'Union européenne. Et par ailleurs, la Turquie, ça c'est un argument aussi très fort qui est avancé par ceux qui sont favorables à son adhésion, la Turquie pourrait jouer un rôle de pont entre l'Europe et le monde musulman. Elle pourrait contribuer à résoudre ce que certains auteurs appellent le clash des civilisations.
D'accord. Et en fait, on sait que la Turquie, c'est un pays à forte croissance depuis quelques années. Et l'entrée de la Turquie donnera une puissance supplémentaire à l'Union européenne. Et mais pourquoi l'Union européenne a décidé de la refuser plusieurs fois?
Alors, il y a plusieurs aspects ou dimensions dans les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Vous avez mentionné ici les dimensions économiques. Celle-ci existe depuis fort longtemps. Il faut rappeler que un accord d'association entre la Turquie et à l'époque la Communauté économique européenne, la CEE, a été signé en 1963. C'est ce qu'on appelait l'accord d'Ankara. un accord qui avait un volet essentiellement économique et qui donc visait à développer les relations entre la Turquie et l'Europe. Cet accord à l'époque prévoyait d'ailleurs, il convient de le rappeler, l'adhésion pleine et entière de la Turquie à l'Europe communautaire après plusieurs années. Les relations économiques se sont développées. On peut aussi mentionner l'accord d'union douanière en 1996 qui a été mis en œuvre entre la Turquie et l'Union européenne, la CE puis l'Union européenne. Et aujourd'hui, l'Union européenne demeure le premier partenaire économique de la Turquie. Donc il y a des relations économiques fortes, intenses et régulières entre la Turquie et l'Union européenne, et en particulier avec la France. L'Union européenne a refusé ou repoussé la candidature de la Turquie pour des raisons autres que des raisons économiques, essentiellement pour des raisons politiques, en se basant notamment sur les critères dits de Copenhague qui stipulent entre autres le respect de la démocratie, des droits de l'homme et des minorités. Et donc c'est sur la base de ces critères politiques notamment, mais aussi institutionnels, que l'Europe communautaire a, durant de longues années, repoussé la reconnaissance d'un statut de pays candidat à la Turquie.
D'accord. Et on sait que la première condition pour entrer dans l'Union européenne, c'est d'être un pays démocratique. Et on reproche à la Turquie de ne pas avoir reconnu le génocide arménien. Est-ce que vous pensez que la Turquie, c'est un pays démocratique ?
Alors, sur la question de la reconnaissance du génocide arménien, c'est un sujet qui est extrêmement controversé et sensible en Turquie, dans la mesure où l'État de Turquie, les autorités officielles turques, le gouvernement et la quasi-totalité des hommes politiques ne reconnaissent pas le qualificatif de génocide pour caractériser les événements qui se sont produits en Anatolie à partir de 1915 et qui sont donc considérés ou définis comme un génocide par la plupart des historiens, par beaucoup de gouvernements et d'États étrangers. Donc là, il y a une controverse historique et politique très très forte, qui est un sujet d'opposition depuis de très longues années entre la Turquie et les pays étrangers, en particulier occidentaux. Ceci étant dit, il convient de rappeler que la reconnaissance du génocide des Arméniens ne figure pas dans les critères de Copenhague qui ont été définis donc pour l'adhésion des nouveaux pays candidats à l'Union européenne. Cette condition de reconnaissance du génocide des Arméniens, elle est apparue dans des résolutions du Parlement européen. Elle est demandée, voire exigée par un certain nombre de gouvernements étrangers. Elle a été reconnue par des États, en particulier la France en 2001, et par de nombreux États à travers le monde, mais ce n'est pas une condition pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, en tout cas pour les institutions européennes. Pour répondre à votre question qui est plus large sur l'état de la démocratie en Turquie, on peut rappeler que le régime politique de la Turquie se caractérise par des institutions politiques qui sont démocratiques. D'ailleurs, il y a une influence d'un certain nombre de pays, dont la France, l'application en Turquie de concepts comme celui de laïcité. Donc en Turquie, par exemple, il y a effectivement des élections qui sont organisées de façon pluraliste et régulière. Donc il y a un certain nombre de caractéristiques du régime politique qui renvoient à une démocratie. Par ailleurs, la Turquie contemporaine a connu des périodes où la démocratie a été limitée, a été réduite, a été menacée, notamment lors de coups d'État militaires. Et donc il y a aussi les caractéristiques du régime politique de la Turquie qui ne renvoie pas à la démocratie au sens occidental du terme, et c'est le cas notamment du rôle joué par l'armée dans la vie politique, même si ce rôle est aujourd'hui réduit, ou encore de la place de la religion dans la vie politique, qui là aussi interroge. Voilà. Et on peut dire aussi qu'actuellement, depuis quelques mois, on observe une dérive jugée autoritaire du pouvoir politique, du gouvernement turc en Turquie. On le voit ces jours-ci à travers la répression des manifestations dans les grandes villes comme Istanbul, l'arrestation de nombreux journalistes. Donc au-delà des institutions qui, elles, ont de nombreuses caractéristiques proche de la démocratie, il y a un certain nombre de pratiques politiques et aussi des périodes durant lesquelles la Turquie, effectivement, ne peut pas, dans son régime politique, être considérée comme une démocratie au sens occidental du terme.
D'accord. C'était quelques jours avant, j'ai eu une petite journal qui dit que le premier ministre turc, Erdogan, a annoncé dans une chaîne de télévision turque, Canal 24, et si la Turquie ne peut pas entrer dans l'Union européenne, les Turcs vont oublier l'Union européenne, rejoindre l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai. Erdogan pense que le groupe des cinq de Shanghai est meilleur et plus fort. Et si la Turquie se tourne vers l'OCS, quelles sont les conséquences positives ou négatives pour l'Union européenne, la Turquie et l'OCS?
Alors, il est vrai que on assiste en Turquie depuis quelques années, depuis presque une dizaine d'années maintenant, selon les sondages d'opinion, à un certain désenchantement de l'opinion turque quant aux perspectives d'adhésion à l'Union européenne. Il y a aussi au sein de la classe politique turque de très profondes et fortes divisions sur la question européenne. Donc, si le parti au pouvoir, AKP, et son premier ministre Erdogan ont beaucoup soutenu l'adhésion de la Turquie dans les dernières années, d'autres partis politiques, en particulier le principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple, lui, est beaucoup plus réservé et critique quant à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et donc, les négociations d'adhésion qui ont été ouvertes en 2005 se sont très rapidement ralenties. Aujourd'hui, on considère qu'elles sont dans une sorte d'impasse, mais d'attente. Elles ne progressent plus. Et par conséquent, il y a une certaine forme de désillusion ou de perte d'espoir que l'on peut observer aussi bien chez les leaders politiques que dans la population en Turquie. Dans le même temps, en raison notamment de ses performances économiques assez spectaculaires, la Turquie, que l'on considère désormais comme étant une puissance émergente, se rapproche par ses indicateurs économiques de pays comme l'Inde ou la Chine, les autorités turques, le gouvernement et son premier ministre tentent par ailleurs de diversifier les relations économiques de la Turquie avec d'autres pays au-delà de l'Union européenne. Donc c'est le cas des pays voisins de la Turquie, mais c'est le cas de puissances aussi émergentes plus lointaines, dont la Chine et l'Inde par exemple. Et donc ceci pourrait effectivement avoir des conséquences négatives pour l'Union européenne, sur le plan économique tout d'abord, et sur le plan politique, en particulier pour ceux qui soutiennent l'adhésion, l'Union européenne pourrait perdre aussi une influence diplomatique, une influence politique, si la Turquie n'adhérait pas à l'Union européenne ou si la Turquie ne souhaitait plus adhérer à l'Union européenne.
Si la Turquie entre dans l'Union européenne, il va devenir la deuxième puissance parlementaire de l'Union européenne. Est-ce que c'est une menace pour les autres pays? Et qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a tout un débat dans certains milieux politiques en Europe, en particulier parmi ceux qui sont opposés à l'adhésion de la Turquie, sur l'influence ou l'impact que la Turquie pourrait avoir sur le fonctionnement des institutions européennes au cas où elle devenait membre de l'Union européenne. Et effectivement, en ce qui concerne cette influence de la Turquie, il y a des interrogations qui ont été soulevées en ce qui concerne le Parlement européen et le fait qu'en raison de sa démographie, qui est importante, donc la Turquie est un pays qui a une population de près de 70 millions d'habitants, elle disposerait d'un nombre de parlementaires européens, de députés européens, qui serait assez élevé et assez proche de celui de l'Allemagne. Alors, on peut ici, effectivement, avancer d'autres arguments qui ont été avancés pour relativiser ce type d'inquiétudes ou de préoccupations qui ont été soulevées, et notamment le fait que les députés européens au Parlement ne sont pas organisés en groupe selon leur nationalité, mais selon leur tendance politique, leur famille politique. Et par conséquent, si la Turquie adhérait à l'Union européenne, les députés turcs qui rejoindraient le Parlement se répartiraient dans les différents groupes, à gauche, à droite, et participeraient aux activités du Parlement en fonction d'affiliation politique davantage que d'affiliation nationale. Donc, ceci est un argument qui est avancé par ceux qui sont partisans de l'adhésion turque pour relativiser ou nuancer les inquiétudes d'une trop forte influence de la Turquie sur le Parlement européen.
Merci. Et je vous pose la dernière question. Et on sait qu'il y a un grand débat au sujet de la Turquie. La Turquie est-elle réellement laïque? Et comment il existe en Turquie une grande majorité musulmane? Est-ce que c'est un risque pour l'Union européenne? Et d'après vous, quelle est la définition d'un pays laïque?
Alors, la Turquie est un État laïque. Le concept de laïcité est défini dans la Constitution. Il est appliqué, mais avec une conception différente de la conception de la laïcité en France. Très très rapidement, on peut dire que la laïcité en turc se définit par la séparation de la religion et de l'État, mais aussi par le contrôle de la religion par l'État. Par conséquent, les hommes de religion en Turquie, les imams par exemple, sont des fonctionnaires, ils sont formés par l'État dans des écoles professionnelles, et puis ensuite ils sont recrutés par l'État et donc ont une activité en tant que fonctionnaires de l'État. La société turque dans son ensemble, enfin si on en croit aussi les enquêtes d'opinion, mais également le mode de vie des Turcs, est une société effectivement qui a intégré pleinement la laïcité, qui adhère aux valeurs de la laïcité. Mais effectivement, depuis 10 ans, avec l'arrivée au pouvoir de l'AKP, qui est considéré comme un parti démocrate conservateur ou religieux, islamique conservateur, voire islamiste, pour ceux qui sont opposés à ce parti, il y a des inquiétudes quant au respect des principes de laïcité en Turquie, principes de laïcité qui ont été mis en place par Mustafa Kemal Atatürk, qui était donc le fondateur de la Turquie républicaine et moderne. Il y a donc des inquiétudes assez fortes, notamment dans les partis d'opposition kémalistes aujourd'hui, quant à l'évolution de la laïcité en Turquie et au maintien, au respect de cette laïcité face à la politique qui est menée par le gouvernement turc, politique qui est jugée comme visant à islamiser la société turque. Il y a effectivement une lutte politique assez forte autour de ce sujet, mais on peut dire qu'aujourd'hui la laïcité reste largement respectée en Turquie, en tout cas sur le plan des valeurs, elle est toujours affirmée comme étant une valeur importante par la population, par les citoyens turcs.
D'accord, merci beaucoup Monsieur Monceau pour nous parler de la Turquie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, Sean, à ma connaissance, il y a une langue qui s'appelle Esperanto, qui se veut universelle. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus à sa place dans le monde et en Europe?
Saludon. Aujourd'hui, je vous présente une langue Esperanto qu'il y a nombre de personnes ne croyaient pas que ça existe. En 1887, la langue qui deviendra l'Esperanto apparaît pour la première fois sous le nom de langue internationale. Son auteur, Zamenhof, un Polonais, avait l'idée de créer une langue dans le but de faciliter la communication entre personnes de langues différentes et aider à avoir la paix dans le monde.
Ok. Comment fonctionne l'espéranto?
Basé sur une grammaire régulière sans exception, l'espéranto est une langue globalement agglutinante où les mots se formaient à partir d'un nombre limité de racines lexicales et d'affixes. Ces particularités facilitent son apprentissage. L'espéranto est la seule langue construite qui a dépassé le stade de projet pour devenir une langue vivante, avec des locuteurs actifs repartis dans la plupart des pays du monde. C'est une langue qui est facile à apprendre par rapport aux autres langues. Par exemple, pour la conjugaison, il termine AS pour le présent, IS pour le passé. En plus, tout le monde peut apprendre gratuitement sur Internet. Et il y a aussi des universités chinoises et brésiliennes qui enseignent l'espéranto. Par contre, l'espéranto n'est la langue officielle d'aucun pays, mais il est la langue de travail de plusieurs associations à but non lucratif, principalement des associations d'espéranto.
Ok. Et pourquoi l'espéranto ne devient pas la langue du travail de l'Union européenne ?
Revenons dans notre sujet de ces mois, la culture européenne et l'Union européenne. Je vis un petit commentaire qui a attiré mon attention. De nombreux politiciens de l'Union européenne sont contre l'espéranto. Je pense qu'ils considèrent cette langue comme une menace contre leurs conditions bien rétribuées d'hommes politiques de l'Union européenne. Si l'espéranto devait devenir la langue du travail de l'Union européenne, ces hommes politiques devraient par conséquence apprendre cette langue, ce qu'ils n'ont ni le temps ni la vie de faire. S'ils ne l'apprenaient pas, il sera remplacé par d'autres confrères. D'après moi, apprendre une nouvelle langue sera un avantage de trouver un travail. Les personnes ayant de bonnes aptitudes linguistiques peuvent apprendre l'espéranto rapidement et que le besoin de professeurs d'espéranto sera important. Par ailleurs, on aura toujours besoin de professeurs de langue et de traducteurs. Et maintenant, je vous présente Marie-Claire de l'Écho des Collines, une espérantiste qui va nous apprendre quelques phrases espéranto.
Bonan tagon, vi estas junaj gejunuloj, knaboj kaj knabinoj. Je vous parle donc, vous êtes des jeunes gens, filles et garçons. Se vi parolas esperanton, vi correspondos kun aliaj junuloj de en la tuta mundo. Si vous parlez espéranto, vous correspondrez avec d'autres jeunes dans le monde entier. Voilà. Tu veux que je dise agglutinant ce que c'est ?
Oui.
Eh ben, les exemples, par exemple, knabo. Knab, c'est la racine. Knabo, c'est le garçon. Knabino, c'est la fille. Knabinoi, c'est les filles. C'est-à-dire, à partir de knab, j'ai ajouté ino pour la fille et j pour le pluriel. Knabinoi. Voilà. On a agglutiné, ça veut dire ajouter à la racine des éléments qui donnent un sens au mot.
Merci, Marie-Claire.
Ok, merci beaucoup Chan et Raymond pour vos recherches. Alors nous allons faire une première pause musicale.
Está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando,
Trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, no le pagan sí, duramente sí, va tosiendo sí, va de luto sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo.
Bon, Tchaka et Will, je voudrais faire une petite précision. La chanson qu'on vient d'entendre, c'est de Victor Jara. C'est un chanteur chilien. Il s'appelle Duerme, duerme, negrito. Et il raconte l'histoire d'une mère qu'il doit faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir amener de la nourriture à son petit enfant dans la campagne.
Ok, merci Raymond. Ah oui, alors je sais que tu es intéressé par le service volontaire européen. Et j'ai donc invité Deborah Pham Van Suya. Et elle va nous répondre à notre interview concernant la mobilité des jeunes.
Oh, merci beaucoup, Siaka. Bonjour, Deborah.
Bonjour.
Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu plus sur votre parcours?
Oui, mais d'abord, merci de m'avoir invité dans votre émission Les Ondes du Vivre Ensemble. Et donc, pour me présenter brièvement, donc, je suis Deborah, j'ai 24 ans et donc j'ai étudié à l'Université libre de Bruxelles et en sciences politiques. Et après mes 3 années d'études, j'avais le sentiment finalement de ne pas avoir une compétence vraiment palpable. J'avais étudié les sciences humaines de manière pluridisciplinaire, c'était très vaste. Et j'avais le souhait un peu d'expérimenter la vie. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre une année de pause dans mon cursus. Et cette année de pause, je l'ai ponctuée d'abord par un voyage de 6 mois en Asie. Et après ce voyage de 6 mois, j'ai directement enchaîné par un service volontaire européen de 6 mois en Espagne, qui a été vraiment une expérience exceptionnelle. Donc on en parlera. Et actuellement, j'ai enchaîné juste après mon service civique, après mon service volontaire européen, j'ai enchaîné sur mon service civique ici à Aude Radio. Donc, ça fait maintenant à peu près 6 mois que je suis ici en service civique en tant que web reporter. Voilà.
D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à participer au programme SVE et comment avez-vous trouvé ce programme? Par quelle voie avez-vous découvert ce programme, en fait?
Alors, j'en ai entendu parler un petit peu par bouche à oreille. Je ne sais plus exactement par quelle bouche, justement, je l'ai entendu. Et puis, j'ai un petit peu gratté. Finalement, j'ai découvert que c'était un programme dont tous les jeunes européens avaient accès. Et j'avais le souhait déjà d'améliorer mes langues étrangères parce que je parlais pas très bien anglais ni espagnol. Et j'avais aussi le souhait de m'investir dans une structure associative parce que le SVE, ça se passe du coup dans des associations. Et donc du coup, j'ai commencé par prendre contact avec une association d'envoi. Mmh. Donc l'association en question, c'est Concordia Aquitaine, qui est située à Saint-Capré de Bordeaux, donc pas très loin de Bordeaux. Et on m'a renseignée du coup sur le SVE. Et j'ai commencé mes recherches à ce moment-là. Donc c'était en août 2011 que j'ai commencé mes recherches pour partir finalement en mai 2012.
Mmh. Et est-ce que vous avez rencontré des freins lors de votre recherche concernant le programme SVE? Est-ce que vous avez des conseils à nous faire partager pour ceux qui souhaitent faire un SVE?
Oui, alors tout d'abord, le SVE s'inscrit dans le programme de l'éducation non formelle Jeunesse en Action. Et à la base, ce genre de programme est vraiment fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères ou de prérequis de langue qui sont demandés ou de compétences. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais bon, de fait, ce qu'on peut rencontrer, c'est que déjà toutes les informations concernant le SVE sont en anglais. Et pour s'inscrire, il faut déjà préparer une lettre de motivation et un CV en anglais. Donc quand on n'a pas le niveau en anglais, ce qui était mon cas du coup il y a un an et demi, j'ai bien progressé par la suite justement grâce à cette expérience, mais il y a un an et demi, je ne parlais pas très bien anglais. Et du coup, j'ai pu rencontrer des premiers freins au moment de la rédaction de mon CV, de ma lettre de motivation. Du coup, ça m'a pris pas mal de temps. Et effectivement, en fait, il y a une base de données sur Internet avec toutes les associations qui sont accréditées en Europe pour pouvoir recevoir des volontaires. Et donc, cette base de données est très dense. Il y a beaucoup d'associations parce qu'il y a aussi des associations qui sont plus forcément d'actualité. Et du coup, ça peut paraître un peu, ça peut être une source de confusion au départ. Donc pour moi, ça a pris pas mal de temps. Ça m'a pris 6 mois entre le moment de mes premières recherches et le moment effectif de mon départ. Ce qui est vraiment la moyenne. En général, on dit aux jeunes, il faut compter à peu près 6 mois. Pour certaines personnes, ça peut être beaucoup plus rapide. Au bout de 2 mois, une personne peut trouver un service volontaire européen. Mais pour d'autres, ça peut même prendre plus de 6 mois. Donc, ce que je conseille aux jeunes, c'est vraiment de ne pas abandonner. Si c'est vraiment un projet que vous avez à cœur, faites-vous soutenir par des associations d'envoi comme Concordia Aquitaine, qui peut être là même pour vous épauler, pour vous aider à rédiger vos lettres de motivation et CV. Et qui peut aussi même vous trouver une association d'accueil. Parce que moi, j'ai trouvé par moi-même une association d'accueil, mais il se trouve que les associations d'envoi peuvent aussi trouver pour vous, par le biais de leurs partenaires, peuvent aussi trouver une association pour vous. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est n'hésitez pas à vous faire soutenir par une association d'envoi qui va vraiment vous épauler dans vos démarches. Et voilà, ne pas baisser les bras parce que ça peut aussi aller très vite. C'est souvent au dernier moment que les associations, parce qu'elles ont des dates butoirs, ou par exemple pour le 1er septembre, elles vont devoir déposer leur dossier auprès de l'Union européenne et des fois, il leur manque des places. Donc, elles vont solliciter les associations d'envoi dans les pays, dans le pays où vous êtes pour leur dire, voilà, il nous faut très vite une candidature avant telle date. Et du coup, ça peut aussi aller très vite. Donc, ne pas baisser les bras et vraiment continuer à mettre de l'effort dedans parce que ça peut aussi aller très rapidement.
D'accord. Oui, May, tu as une question ?
Ah oui, je veux savoir, d'après votre expérience, pouvez-vous nous dire ce que vous avez plus marqué ?
Ce qui m'a le plus marqué en SVE, alors moi, ma situation, est, voilà, je pense qu'à chaque SVE correspond à une expérience particulière parce que tous les volontariats sont différents. Et moi, dans mon cas, j'étais à Valencia, en Espagne, et on était 10 volontaires venus de toute l'Union européenne, répartis dans 2 maisons, et on travaillait dans 5 associations différentes. Donc moi, je travaillais dans une librairie de jeux, dans une ludothèque, avec une Polonaise. Et je peux dire que ce qui m'a marqué, c'était vraiment l'interculturalité de ma mission, puisque du coup, j'étais sans arrêt en contact avec d'autres Européens. Donc, c'était vraiment un fabuleux moyen de découvrir l'Europe et les différentes cultures. Donc, pour moi, voilà, mon service volontaire européen, c'était un beau projet, celui de la ludothèque dans un quartier défavorisé de Valencia. Mais c'était avant tout la rencontre avec d'autres jeunes Européens et un moment un peu unique. Dans ma vie, je pense que c'est vraiment l'une des plus belles expériences de ma vie parce que c'était un temps vraiment pour m'ouvrir pleinement à la rencontre de l'autre, à la rencontre de jeunes, à la rencontre de l'Europe et de moi-même. Donc je recommande aux gens aux jeunes qui ont envie de découvrir de nouvelles expériences. Je vous recommande de faire cet échange.
Wow, c'était magnifique. Et est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour rassurer les filles qui veulent participer à ce programme? Car partir dans un pays étranger alors qu'on ne connaît pas la langue, et c'est une expérience qui peut faire peur à des filles.
Oui, ben justement, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui fait un mémoire en sociologie qui m'a interviewée pour que je lui parle de mon expérience de SVE. Et en fait, elle était assez intéressée par mon retour parce qu'elle me disait parce que j'avais employé le mot de d'expérience émancipatrice. Et elle me disait, c'est exactement ce que je veux démontrer par mon mémoire, c'est qu'en fait, on se rend compte que 75% des personnes qui partent en SVE, en service volontaire européen, sont des filles. Et c'est justement ce qu'elle cherche à démontrer, c'est que ce genre d'expérience, d'éducation non formelle, d'échange, c'est en fait le moyen pour les jeunes filles de s'émanciper. Et du coup, de partir par leurs propres ailes, en fait, dans un autre pays, et de vivre une expérience comme ça. Et je pense que il faut pas avoir peur, parce qu'il y a un cadre. C'est pas comme si on partait, sans cadre, sans référence. Là, il y a quand même le cadre des associations, l'association d'envoi qui nous épaule, et l'association d'accueil qui est là à l'arrivée pour nous mettre en confiance, pour nous... Moi, dans mon cas, après, chaque SVE est différent, mais dans mon cas, je suis arrivée, j'avais déjà l'appartement, j'avais déjà la carte pour le transport, on m'a donné une carte pour m'orienter dans la ville, j'ai vraiment été soutenue, et je ne me suis pas du tout sentie perdue, et je pense que, oui, il n'y a pas de crainte à avoir, et même si on est une jeune fille, et même si on n'a pas beaucoup d'expérience à l'international, je pense qu'il faut vraiment oser.
D'accord, merci May pour tes questions vraiment très intéressantes. Et Déborah, à ma connaissance, il y a d'autres programmes en lien avec la mobilité de la jeunesse. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce point ?
Oui, alors pour résumer brièvement, concernant les programmes de la mobilité de la jeunesse au niveau de l'Union européenne, donc comme on l'avait vu dans les interventions qu'on avait eues ensemble, il y a d'abord tout ce qui est en lien avec l'éducation formelle. Donc l'éducation formelle, ça va être ce qui est en lien avec les universités, la vie professionnelle. Et du coup, ce programme-là s'appelle « Formation tout au long de la vie ». Et donc dans ce programme, le fameux échange le plus connu, c'est Erasmus, vous en avez tous entendu parler. Donc là, ça se passe au niveau de l'université, que ce soit pour les étudiants ou les professeurs. Et après, il y a un autre programme, il y en a plusieurs. Il y a Leonardo, Grundtvig, Comenius. Mais au niveau du Leonardo, je vous en parle parce que je sais que vous pouvez être concerné par ce programme-là, ça peut vous intéresser. C'est la possibilité de partir faire un stage professionnalisant dans un autre pays avec un soutien linguistique au départ et qui est, voilà, il y a une bourse, c'est financé. Et c'est l'occasion de partir en milieu professionnel dans un autre environnement linguistique et culturel. Voilà, donc ça, c'est aussi un programme qui existe dans l'éducation formelle. Mais pour revenir à l'éducation non formelle et à notre SVE, l'éducation non formelle, c'est regroupé dans un programme qui s'appelle le programme de la jeunesse en action. C'est pour les 13-30 ans. Et dans ce programme-là, on a le service volontaire européen qui est le programme phare, mais il existe aussi d'autres choses comme les échanges de jeunes. Les échanges de jeunes, c'est des échanges dans d'autres pays. Par exemple, si vous êtes français, c'est pour partir dans d'autres pays, ou même en France, c'est aussi possible. Ce sont des échanges de 1 à 3 semaines et ça s'adresse aux 13-25 ans. Donc voilà, c'est l'occasion d'échanger sur différentes thématiques avec des personnes qui viennent de toute l'Union européenne ou même d'ailleurs. Puisque là, le critère, et c'est pour ça que vous êtes le public concerné, ce n'est pas la nationalité, mais c'est la résidence. Donc du moment où vous résidez régulièrement dans un pays de l'Union européenne, vous pouvez participer à ces projets. Et il existe encore d'autres choses, comme le séminaire de jeunes. Je reviens justement d'une semaine en Lettonie, où c'était un séminaire où en fait qui s'adresse aux personnes qui travaillent avec des jeunes. Et c'est une formation qui nous invite à échanger, parce qu'on était 10 jeunes venus de toute l'Union européenne, 15 jeunes venus de 10 nationalités différentes, pardon. Et du coup, on a échangé sur nos pratiques, sur nos associations, sur nos structures, différentes clés pédagogiques pour travailler avec des jeunes. Et ça, ces formations-là, elles sont présentes sur le site Salto, S-A-L-T-O. Et chaque mois, il y a tout un panel de différentes formations qui s'adressent du coup aux personnes qui travaillent avec des jeunes. Et il existe aussi un autre point qui s'appelle Initiative de jeunes. Et ça, c'est l'opportunité pour des jeunes, à partir du moment où vous êtes deux, de créer un projet. Si vous avez une envie, par exemple, faire un média, faire un film, un documentaire, vous pouvez du coup créer un projet afin d'obtenir une bourse pour financer votre projet. Et là, c'est du coup l'initiative de jeunes. Voilà, donc il existe beaucoup de choses, que ce soit du côté de l'éducation formelle ou du côté de l'éducation non formelle.
Waouh, beaucoup d'informations à assimiler. Je vous remercie, Déborah. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nos auditeurs ?
Un mot de fin, je voudrais inviter... Mais tous les jeunes qui ont ce souhait de découvrir d'autres cultures, d'élargir leurs horizons, d'ouvrir de nouvelles portes, ne pas hésiter et de vous faire soutenir par des structures si vous n'avez pas toutes les informations, de vous faire soutenir avec des structures comme Concordia Aquitaine ou bien d'autres encore pour réaliser vos souhaits. parce que voilà, ce sont des programmes, il y a aussi un âge limite, donc ne pas hésiter à faire ça avant qu'il ne soit trop tard.
D'accord. Merci encore, Déborah.
Merci à vous. Donc,
je vous souhaite un très bon week-end et j'espère vraiment que d'autres jeunes suivront votre chemin. D'accord. Passons à un autre sujet. Donc, Siaka, tout à l'heure, tu m'avais évoqué le mariage entre les personnes du même sexe. Et apparemment, elle a été légalisée ce mois-ci. Mais qu'en est-il du mariage dans les autres pays? Donc, du coup, je vous invite, auditeurs, auditrices, à écouter l'enquête réalisée par May et Antoinette, qui va vous faire voyager en Chine, en Jamaïque et bien sûr en Europe. À toi, Antoinette.
Merci, Will. Pendant de nombreuses années en France, la possibilité pour les couples de vivre ensemble était très limitée. L'acte de mariage était réservé d'une union entre un homme et une femme. Aujourd'hui, la France offre à son peuple un kaléidoscope d'alternatives et le mariage est désormais ouvert aux couples composés du même sexe. Parmi ces alternatives, l'union libre et le pacte civil de solidarité, PACS. De nos jours, 80% des couples qui vivent ensemble sont mariés, 16,7% en union libre et 3,3% paxés. Et le nombre de personnes qui choisissent l'option de PACS continue à augmenter.
Et moi, je pense que si on veut connaître la culture de quelques pays, il faut connaître la culture du mariage d'abord. Parce que pour les Chinois, le mariage est une chose divine et sérieuse. C'est pourquoi j'ai choisi ce sujet. Comme Antoinette vient de dire, en Europe, il y a trois formes de relations. Par union libre et le mariage, il y a deux types de mariage, le mariage homosexuel et le mariage hétérosexuel. Il y a 28 pays européens. Maintenant, dans la plupart des pays européens, le mariage y est à 18 ans pour les filles et les garçons, mais sur le rapport d'enquête en 2011, l'âge au mariage est dans en moyenne de 30 ans pour les femmes et 29 ans pour les hommes. Sept pays permettent le mariage homosexuel, mais en même temps, il y a encore beaucoup de gens qui sont contre le mariage entre les personnes du même sexe. Dans ce sept pays après le mariage, tous les couples peuvent obtenir les mêmes droits. Mais l'Italien, la Grèce, la Pologne, Chypre, Malte, la Lituanie, l'Estonie, la Roumanie et la Bulgarie ne soutiennent aucune forme d'une pour les couples homosexuels. J'ai trouvé sur Internet qu'il y a de plus en plus de couples qui vivent et élevent leurs enfants ensemble avec le PACS sans le mariage. Je trouve que c'est très bizarre. Peut-être pour eux, si l'amour disparaît, ils peuvent se séparer plus facilement parce qu'ils n'ont pas besoin de diviser les propriétés. Mais en Chine, la nubilité est plus tard qu'en Europe. C'est à 20 ans pour les filles et 22 ans pour les garçons. Parce qu'il y a trop de monde en Chine, nous devons contrôler le nombre de la population. En plus, dans mon pays, le mariage homosexuel est interdit et il n'y a pas de PACS. La Chine, c'est un pays traditionnel pour les Chinois, c'est il y a amour entre deux personnes et qu'ils ont envie de vivre ensemble longtemps. Le mariage n'est pas obligatoire, mais il est important et nécessaire parce que, à mon avis, le mariage est une condition pour construire une famille. C'est mieux pour améliorer la responsabilité des couples. Et ce qui est le plus important, c'est une famille harmonieuse, très salutaire pour les enfants. Et alors, ensuite, je vous conseille une chanson chinoise mignon pour le mariage.
Hey, hey,
Wow, parfait, ça m'a fait voyager. Hein. Oui, merci beaucoup, May et Antoinette.
Ah ben, alors là, attendez, hein, j'aimerais bien de parler de la musique de la Jamaïque.
Ah, d'accord. Oui, oui, la présentation.
Mais c'était la jolie chanson de Clinton Ferron, c'est une chanson de la mort.
Ah.
Oui.
D'accord. Merci, May. Veux-tu m'épouser, d'après ça?
Je dois réfléchir.
Ah, elle ne veut pas. Bon, merci beaucoup, auditeurs, auditrices. L'émission s'achève. Nous vous rappelons que cette émission a été réalisée dans le cadre du projet Les Ondes du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds européen d'intégration, piloté par O2 Radio et en partenariat avec l'association L'Autre Rive. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup encore.
Ciao.
A dream is just a dream. A dream is just a dream. Without you, a dream is nothing more, a dream is nothing less. Without you, a song is not a song, a song is not a song. Without words, there's no right or wrong, there's no right or wrong without intelligence. The man next door is your brother, just like that person in the mirror. You and I reflect one another. How long shall we run from the truth? Yes, we can run, but we can't hide. Oh no, 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 no. Like a team, me for you and you for me, the way we ought to be, no in between. What's the use of a telephone if nothing is at the other end? It's time we realize that no one stands alone. The man next door, your brother, just like that person in the mirror. You and I reflect one another. How long shall we run from the truth? Yes, we can run, but we can't hide. Oh no, 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 no. Much to be achieved.